Brume 90.7, nouvel entretien Confluence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Bougnol, qui est naturaliste et qui représente la FRAPNA, alors qui est la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. Bonjour Julien.
Bonjour Amaury.
Alors du coup, tu vas nous parler à la fois de cette asso, cette structure, la FRAPNA, et aussi en même temps des projets que vous défendez, des actions et de ce que vous faites un petit peu.
Tout à fait.
Alors déjà, pour commencer, la FRAPNA, c'est une structure qui est née à quelle période ?
Donc la FRAPNA, c'est une association de protection de la nature qui est née en 1968. Donc ça n'avait pas forcément non plus trop de lien avec les événements de mai 68. C'était une prise de conscience qui est venue à l'époque donc, du milieu universitaire, de la très forte dégradation des milieux naturels et des espèces qu'on observait en région lyonnaise et après de manière un peu plus large en Rhône-Alpes, donc qui ont fondé une association. La FRAPNA, donc au départ, ça s'appelait le COSILIO, donc Comité des sites du Lyonnais. Petit à petit, voilà, au cours de l'histoire, le nom a changé. On est devenu la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Donc, sachant qu'il y a une FRAPNA dans chacun des départements de Rhône-Alpes, donc en tout 8 FRAPNA départementales. Donc, moi, je représente la FRAPNA Rhône, vu que nous sommes ici à Lyon. Et tout ce petit monde-là est fédéré par une union régionale avec un président donc, qui représente et qui est le porte-voix de la FRAPNA, donc, qui s'appelle Éric Ferraille, qui est quelqu'un qui vient de la Haute-Savoie. Et voilà, sachant que la FRAPNA est aussi fédérée directement à France Nature Environnement, donc, qui est notre fédération nationale, qui va du coup être un représentant des associations de protection de la nature à l'échelle de la France. Sachant que nous, FRAPNA aussi, notre objectif, c'est de fédérer plein de petites structures, des petites associations qui sont concernées par la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc voilà, d'où le F de FRAPNA, c'est fédérer, c'est essayer de faire en sorte d'unir les forces et les énergies dans ce grand combat qui est la protection de la nature et de l'environnement.
Alors à la base, donc années 68, années 70, tout ça, c'est plus des chercheurs qui s'investissent, des naturalistes, ou est-ce que c'est des gens aussi de divers horizons ?
Alors avant tout, donc ce qu'on revendique, c'est être des experts, donc des experts des milieux naturels, de la faune et de la flore. Donc c'était d'autant plus vrai dans les années 70, où c'était des universitaires, où c'était des naturalistes, donc des spécialistes de la faune et de la flore sauvage, qui se sont regroupés dans ces associations et dont l'objet du message, c'était de dire à la société qui était en pleine après-guerre, qui voulait se développer, qui avec des grands projets d'urbanisation de partout, leur message, c'était de dire il y a peut-être aussi d'autres choses à regarder que la croissance de l'espèce humaine, parce que cette croissance, elle détruit des milieux, elle fait des gros dégâts sur la vie sauvage qui est à nos portes. Et donc voilà, c'était important de porter un message fort pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que l'homme qui habite la planète Terre, il y a aussi beaucoup d'autres espèces et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que l'homme arrive à cohabiter avec ces espèces. Donc c'était le message qui était porté à cette époque et qu'on continue encore aujourd'hui en 2014 de défendre.
Alors concrètement, au niveau des actions que vous faites,
quand on se rend compte, pour justement avoir une société un petit peu plus vertueuse en matière d'environnement, c'est que les citoyens, les gens qui la composent, comprennent un petit peu mieux ce qui se passe. Soit des citoyens un petit peu plus, pas forcément éduqués, mais juste qui ont une sensibilité d'arriver à savoir tout ce qui se cache derrière cette grande nébuleuse qu'est l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a des animateurs dont le métier, c'est au quotidien d'aller voir des maternelles, des écoles, des lycéens, des étudiants, le grand public, des fois aussi des personnes en maison de retraite, enfin d'essayer de toucher la société pour lui refaire un peu comprendre, surtout dans un public comme on peut avoir à Lyon, qui est un public très urbain, leur refaire prendre contact avec la nature, les faire s'émerveiller devant de temps en temps, ne serait-ce qu'un petit insecte qu'on va avoir à côté de chez nous, une petite plante, pour justement leur refaire comprendre qu'il y a effectivement la vie sauvage, elle n'est pas forcément à l'autre bout de la planète, mais on en a aussi une vie sauvage très intéressante et diversifiée dans nos jardins et à nos portes.
Et alors, comment vous voyez, alors toi, mais j'imagine l'ensemble de la FRAPNA aussi, justement, l'évolution du rapport qu'ont les gens, qu'ont les citoyens, la société civile, avec l'environnement, avec l'importance de défendre la nature, les animaux?
Alors, l'évolution, elle est réelle, heureusement, parce qu'on est parti de quasiment rien. Au départ, le message qui a fondé nos sociétés chrétiennes, c'est qu'il faut dominer la nature. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un message du passé qui n'a n'a pas forcément non plus lieu d'être. Donc voilà, comme je le disais, on est quand même dans un contexte où, voilà, où de plus en plus les gens habitent en ville, donc où il y a de plus en plus d'urbains, donc des gens qui n'ont pas forcément ce contact au quotidien avec la nature. On se rend compte aussi que la perception justement des espèces et de la vie sauvage, elle est complexe. C'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Il faut prendre du temps, il faut se poser des questions. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est justement que les gens de poser des petits embryons de questions dans la tête des gens, et pas que, et surtout même des politiques, des gens qui décident, qui aménagent l'espace, parce qu'ils ont quand même beaucoup de poids dans leurs décisions. Et de temps en temps, peut-être qu'on va parler aussi des grands projets d'aménagement qu'on peut avoir autour de nous, mais ça sera peut-être dans une autre partie. On se rend compte que beaucoup de gens qui ont du pouvoir ne prennent pas du tout en compte, malheureusement, ces questions relatives à la vie sauvage et aux espèces.
Et alors, comment vous, qui avez aussi vocation à fédérer et à être en contact avec pas mal d'associations, vous avez créé ces relations, ces partenariats?
Il faut voir que l'environnement, c'est quelque chose de très très large. Ça touche, comme tu le disais, à la fois les questions relatives aux déchets, les questions relatives à l'énergie qui prennent beaucoup de place, mais bon, c'est effectivement relativement légitime. Les questions relatives au milieu aquatique, à l'eau, relatives à la biodiversité. Donc tout ça, c'est plein de choses très différentes, où il y a des gens qui vont être spécialistes un petit peu de chacun de ces domaines. Et de temps en temps, on va aussi avoir des confrontations, par exemple. Quand on parle de production d'énergie renouvelable, on va penser à l'éolien, on va penser au barrage hydroélectrique. Donc il va y avoir toute une France des environnementalistes qui vont être très très favorables à tout ça, et d'autres qui vont être un petit peu plus mitigés, parce que les barrages, ça empêche les poissons de se déplacer de part et d'autre des cours d'eau. Les éoliennes, ça fait du hachis parmentier d'oiseaux et de chauves-souris. Donc voilà, c'est des problématiques qui sont complexes. Et aussi, nous qu'on essaye de faire avant tout, c'est faire du dialogue, c'est-à-dire que les gens arrivent à se parler, à se comprendre et à trouver des solutions ensemble.
Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'être dans une récupération écolo, on va dire, pour utiliser un terme générique, qui est assez scandaleuse quand même.
Le greenwashing, effectivement, il y a un mot qui a été créé pour ça, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière, c'est sûr. Forcément, c'est très très difficile. Il y a quelques personnes, donc ce qu'on appelle les éco-sceptiques, qui disent effectivement, moi j'estime que tout ça c'est du bidon, ça m'intéresse pas du tout, mais globalement on est obligé, si on est une entreprise ou un homme politique, de porter un certain message sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde a vu les images d'espèces qui disparaissent, les grandes plaques de déchets qu'on trouve maintenant dans nos océans. Donc c'est des visions qui touchent, donc forcément c'est très très difficile aujourd'hui d'ignorer complètement tout ça. Voilà, donc ce qu'on note effectivement, c'est que le message, il est porté des fois par des structures qui sont pas forcément les plus vertueuses. De temps en temps, on trouve ça relativement scandaleux, effectivement, quand on parle d'éco 4x4 ou des choses comme ça, alors qu'on sait très bien que sur la dimension énergétique, il faut faire attention à avoir des voitures plus légères, des énergies plus propres, et qu'on a des gros 4x4 diesel qui sont éco 4x4, forcément, ça nous fait un petit peu rigoler. Donc voilà, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans chaque entreprise, dans chaque structure, il y a aussi des gens qui sont de bonne volonté, et que voilà, derrière des messages qui peuvent de temps en temps paraître un petit peu comme du greenwashing, il peut y avoir aussi derrière des personnes qui ont des bonnes idées, et c'est juste que voilà, le message ne va pas forcément être très très bien porté. Donc voilà, moi j'ai pas forcément tendance à toujours acheter la pierre à tous ceux qui vont justement essayer de s'approprier un petit peu les questions d'écologie, parce que c'est quand même très très important que ça rentre, que ça percole, et que dans le milieu de l'entreprise notamment, les gens en parlent et essaient de faire évoluer les process au sein des grandes structures.
Alors pour revenir à la Frapna, on va parler un petit peu de la section Rhône. Vous êtes combien à peu près? Ça se divise comment entre les salariés, entre les bénévoles, ceux qui viennent furtivement?
Alors, la Frapna, à la base, donc comme toutes les associations, on est né par une énergie citoyenne, une énergie qui était bénévole. Petit à petit, on s'est rendu compte que ce qu'on portait, ça intéressait quand même pas mal de gens, et qu'on arrivait notamment à tirer quelques petits financements de ci, de là, pour faire des animations dans les écoles. Donc petit à petit, on a une équipe salariée qui s'est construite, qui représentait une ou deux personnes dans les années 90, et aujourd'hui, En 2014, on est une quinzaine de personnes dans la FRAPNA Rhône, sachant que ces 15 personnes, donc ces 15 salariés, ils vivent et leur raison d'exister, c'est avant tout les adhérents, les administrateurs et les bénévoles de l'association, donc qui dans le département du Rhône représentent à peu près 400 personnes, plus une vingtaine d'associations fédérées. Donc c'est ces gens-là qui décident, et ce qui fait qu'une association est une association, c'est donc des administrateurs, des gens qui sont bénévoles, qui vont décider des choix politiques, des choix quotidiens de la FRAPNA.
D'accord, bah écoute, je te propose qu'on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve ensuite pour parler bah, justement des projets concrets que vous défendez en ce moment à la FRAPNA, bah, dans le Rhône, mais aussi dans toute la région. Rhume 90.7, deuxième partie de cet entretien Confluence consacré à la FRAPNA. Alors Julien, on va maintenant un petit peu parler des projets concrets que vous défendez en ce moment, ces dernières années, et qui vont avoir lieu un petit peu dans les mois qui arrivent.
Oui, alors donc la FRAPNA, il faut voir que on s'intéresse un petit peu à tous les projets qui existent en matière d'environnement. Donc potentiellement, ça nous fait intervenir sur pas mal de sujets. L'un, moi, qui me touche particulièrement à cœur et dont on parle aussi assez fortement en ce moment, c'est tout ce qui va concerner les grands projets d'aménagement du territoire, donc ce que certains appellent aussi les grands projets inutiles, donc qui vont toucher à cette appropriation très très forte que l'homme va vouloir avoir sur les milieux pour justement en général générer des activités de nature économique. Donc voilà ce qui pose question, parce que nous en tant que FRAPNA, on n'est pas forcément une association qui est complètement radicale et qui est opposée à tout. Par contre, on peut quand même estimer qu'on ait le droit de se poser la question de la légitimité de projets qui consomment des surfaces d'espaces naturels, d'espaces agricoles qui sont des espaces de grande qualité pour mettre en place des projets dont on peut vraiment se poser la question de l'utilité. Bon, donc on a beaucoup parler de Notre-Dame-des-Landes ces dernières années, de manière un peu plus récente, le barrage de Sivens dans le Tarn. Effectivement, c'est des projets qui visent à faire vraiment du développement, mais est-ce que c'est vraiment là le bon développement que nous on cherche dans nos sociétés? Est-ce que c'est toujours plus de trafic, de transport, de kérosène brûlé pour Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que concernant Sivens, c'est une agriculture qui consomme beaucoup d'eau, une agriculture qui consomme beaucoup de pesticides que l'on veut, ou c'est des alternatives? Donc nous, bien entendu, en tant qu'association, on défend des modèles qui sont autres que ceux qu'on peut voir dans le cadre de ces grands projets. Et quand on y est confronté, si on s'y oppose, on le dit, on le fait savoir. De temps en temps, on met en place des recours juridiques contre ces grands projets, parce qu'on estime que la société, si elle veut se développer de manière harmonieuse avec les années, les siècles qui passent, Il faut arriver de temps en temps à dire stop, et ça on le fait plus, c'est de la bêtise.
Pour parler au niveau région, sur des projets comme Notre-Dame-des-Landes ou le Tarn, vous vous impliquez aussi, ou c'est plutôt un soutien général, et vous impliquez sur des choses comme le Lyon-Turin TGV, comment ça se passe un peu?
Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on est fédéré à France Nature Environnement. Donc sur les grands projets qui vont avoir une résonance nationale comme Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, ça va être France Nature Environnement qui va du coup être le porte-parole de toutes les associations en France, et qui va du coup défendre nos messages, faire paraître des communiqués de presse, s'exprimer dans les médias pour justement évoquer ces sujets. Concernant Rhône-Alpes, il se trouve qu'on est un département avec aussi une forte pression de l'homme, notamment au niveau des grands projets d'urbanisation. Donc tu cites effectivement Lyon-Turin. Il y a notamment aussi des grands projets d'autoroute dont on peut se poser la question de la pertinence quand on connaît toutes les problématiques liées à la circulation automobile, à la pollution, au réchauffement climatique. Est-ce que ça vaut encore le coup de construire des grandes voiries autoroutières? Donc si on prend certains exemples sur Lyon, donc Lyon effectivement la capitale de Rhône-Alpes, avec toutes les agitations qui en découlent, on a ni plus ni moins à peu près 5 ou 6 projets autoroutiers dans la grande couronne lyonnaise. Donc c'est la 45. Qui est une nouvelle autoroute qui vise à rejoindre Saint-Étienne. C'est le col, contournement ouest de Lyon, qui vise à recréer une rocade à l'ouest, parce que juste à l'est, ça ne suffit pas. C'est le top, tronçon ouest périphérique, que le Grand Lyon a pompeusement renommé l'anneau des sciences. C'est encore des petits barreaux autoroutiers au nord, au sud-est de Lyon, sur lesquels, nous, on estime que ça suffit. Le maillage autoroutier, il est suffisamment dense autour de Lyon. Aujourd'hui, l'enjeu, on sait très bien que c'est de faire en sorte que les gens se déplacent moins en voiture et utilisent des alternatives, utilisent des transports en commun, utilisent des modes doux pour se déplacer, et on estime que ça suffit. Ces grands projets, qui en plus sont des projets extrêmement coûteux, extrêmement destructeurs de l'environnement, qui vont avoir des conséquences sur des dizaines, des centaines d'années, et qu'il faut les mettre au placard et mettre en place des alternatives.
Et alors, comment vous agissez-vous concrètement sur, on va dire, un projet autoroutier, par exemple? Ça veut dire que vous allez faire des études sur l'environnement, l'impact que ça va avoir? faites des conférences, comment ça se traduit un petit peu ?
Alors, le niveau d'implication, il peut être assez varié. Alors, les études, c'est nous, on a un réseau de naturalistes qui, de manière quotidienne, tous les jours de l'année, va faire des observations d'espèces, dont certaines espèces protégées, et va les transmettre aux structures associatives qui, du coup, vont avoir des bases de données. Donc, les territoires dans le Rhône, on les connaît relativement bien. On connaît les espèces rares, les espèces protégées qui y habitent. Donc, voilà, ça, c'est notre petite connaissance qu'on va toujours, justement, utiliser quand on va voir des grands projets. Donc, sachant que quand un maître d'ouvrage, donc quelqu'un qui construit des autoroutes, par exemple, va monter son projet, il va demander à des bureaux d'études, donc des structures spécialisées pour le faire. Donc, nous, comment est-ce qu'on agit là-dedans ? Ben, on va effectivement communiquer, faire des grandes journées de mobilisation pour dire qu'effectivement, ce projet, c'est bien d'essayer de le regarder sous tous ses angles et pas uniquement le fait qu'une personne qui habite de l'autre côté du projet, elle va pouvoir se déplacer plus vite parce qu'on lui fait une autoroute, mais effectivement parler de pollution, parler de gaz à effet de serre, parler de destruction des milieux naturels sur laquelle la grande autoroute va passer. Et si vraiment on estime qu'on n'est pas du tout entendu, eh ben on n'hésitera pas à porter des recours contre ces grands projets en utilisant différentes voies d'entrée, effectivement, que ce soit la destruction des espèces protégées, que ce soit la destruction des cours d'eau, des zones humides qui vont être liées. On a pas mal de sujets d'entrée aussi pour faire voir notre droit. Quand on parle de droit, il y a le code de l'environnement qui existe avec beaucoup de lois qui encore aujourd'hui sont mal respectées. Donc c'est aussi nous, notre rôle d'association, de faire respecter, de rappeler qu'il y a une réglementation et qu'on fait pas n'importe quoi.
Et en plus, c'est vrai que pour faire un petit aparté, c'est quand même aussi source d'espoir. Finalement, on a vu aujourd'hui avec la nouvelle qui est tombée sur pour l'instant l'Union européenne qui a l'air de refuser de faire le barrage sur Notre-Dame-des-Landes, où quand même il y a 3 ans on nous disait non mais ça va être fait et que pour l'instant c'est pas encore fait. Enfin, il y a quand même matière à avoir de l'espoir aussi dans le fait qu'il y ait quand même certaines lois de l'environnement qui sont respectées un minimum.
Oui, bah ça c'est quand même grâce aux gens, aux militants qui se mobilisent pour justement mettre en évidence que le fait que ces projets ils sont plus logiques, ils sont plus pertinents. Donc du coup, ça va avoir de la résonance dans les médias. Le monde entier va s'en rendre compte. Et du coup, voilà, effectivement, de temps en temps, on peut aussi arriver à avoir des appuis de la part de certaines grandes structures, notamment au niveau de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'en France, à peu près 80% de notre réglementation, ça vient de l'Europe. Donc ça fait grincer des dents à beaucoup de gens qui se trouvent bridés dans leurs projets, etc. Mais nous, effectivement, en tant que défenseurs de la nature et de l'environnement, on peut que se réjouir que des choses soient un petit peu plus cadrées et que ça soit plus le Far West et qu'on puisse plus faire n'importe quoi comme ça a pu être le cas il y a encore quelques dizaines d'années.
Et alors concrètement sur le Rhône, au niveau des espèces animales, des espèces végétales, on en est à quel niveau de dramaturgie, on va dire? C'est dramatique ou c'est quand même plutôt un département qui arrive quand même à avoir, département, même si on parle de Rhône-Alpes, il y a eu quand même des efforts
Alors très clairement, la région Rhône-Alpes, effectivement, c'est une région qui est quand même plutôt en avance sur la prise en compte des problèmes liés à la nature et à l'environnement de manière globale. Donc il faut voir quand même qu'on est dans une situation de crise. On est dans une situation de crise sur les problématiques de réchauffement climatique. On est dans une situation de crise sur la surexploitation de nos ressources naturelles. Et on est aussi, chose qu'on sait peut-être un petit peu moins, dans une situation de crise d'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un rythme de disparition des espèces qui est à peu près 1000 fois plus important que ce qu'il pourrait être de manière naturelle. Donc voilà, à nos portes, c'est des insectes, c'est des amphibiens, c'est des petits mammifères qui disparaissent du fait du très très fort impact que l'homme va pouvoir avoir via notamment l'urbanisation, donc c'est-à-dire la destruction, la fragmentation des milieux naturels et également l'utilisation de produits chimiques qui vont avoir des effets assez dévastateurs sur les insectes.
Et donc, c'est vrai qu'encore une fois, je te coupe 2 secondes, mais au niveau médiatique, on entend quand même beaucoup parler de l'ours blanc, de l'éléphant, enfin de grandes espèces qui sont malheureusement aussi en danger. Mais c'est vrai qu'on parle moins finalement de ce qu'il y a autour de nous, des petits mammifères, des insectes, des abeilles, de, de ça aussi, quoi.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est aussi lié au fait que dans les médias, on a peut-être besoin un peu plus de spectaculaire qu'effectivement de parler d'une petite espèce d'abeille, comme tu le cites, ou d'un petit criquet, ou d'un petit triton, qu'on va beaucoup moins facilement arriver à voir, et sur lequel on va peut-être aussi avoir un petit peu moins d'affectif. Hein, c'est vrai qu'un ours polaire, c'est sympa, et un triton, peut-être que ça l'est un peu moins. Donc moi, j'aime beaucoup les tritons, parce que c'est le groupe par lequel je me suis intéressé au milieu naturel et à la biodiversité. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'à nos portes, on a une vie sauvage qui est encore fabuleuse. Il y a à peu près 8 Lyonnais sur 10 qui ignorent qu'il y a des castors dans Lyon. Et oui, le castor, plus grand rongeur d'Europe, 30 kilos, on le retrouve sur le parc de le Gerland, on le retrouve au parc de la Fessine à Villeurbanne. Donc on a encore cette vie sauvage qui est bien présente à notre porte. Donc voilà, on parle aussi un petit peu tout à l'heure de diagnostic. Est-ce que ces espèces, elles se portent plutôt bien? Est-ce qu'elles se portent plutôt mal? On a quand même certaines qui, au final, qui vont plutôt bien. Le castor, c'en est un exemple très très intéressant. Donc moi, c'est une espèce que je suis, que je connais quand même relativement bien. Le castor, il y a à peu près une dizaine d'années, on avait quand même beaucoup moins de castors qu'on a aujourd'hui, lié au fait que voilà, l'espèce ayant été protégée il y a plusieurs dizaines d'années de ça, il y a une phase de regain, de recolonisation naturelle du castor, des milieux desquels il avait disparu. Donc voilà, c'est cet état des lieux. On peut le faire aussi avec la loutre, où là on est vraiment dans une phase très très récente de retour de la loutre qui revient sur le Rhône, qui a passé maintenant l'agglomération lyonnaise. Elle venait depuis l'Ardèche, maintenant elle est en train de partir vers le Haut-Rhône, vers l'Isère, la Haute-Savoie, etc. Donc voilà, ça c'est des messages relativement encourageants qui fait que, heureusement qu'on est environnementaliste, on n'a pas envie de se suicider. De temps en temps, on est quand même très très content de voir qu'il y a de la vie sauvage spectaculaire qui revient.
Et alors vous, encore une fois, en tant que Frapna, les petites choses que vous allez pouvoir faire, notamment avec des bénévoles ou avec du public, ça va être construction de corridors, ce genre de choses, nettoyage un peu des berges.
Alors avec le public, la Frapna, donc comme je le disais, on est vraiment basé sur une énergie bénévole et militante. Donc effectivement, c'est avant tout donc des administrateurs, donc des gens qui font ça de manière bénévole, qui sont des passionnés, qui permettent à la Frapna de fonctionner. Après, de manière un peu plus pragmatique, de temps en temps, on organise ce qu'on appelle des chantiers nature ou des journées co-volontaires où on va proposer à tout citoyen qui est prêt à le faire de prendre la pelle, la pioche, de recreuser des mares pour les tritons, de replanter des haies pour les oiseaux, pour recréer de la diversité biologique, pour recréer de la diversité dans les paysages. On va aussi faire des nettoyages de déchets sur les bords du Rhône pour que justement on puisse donner aussi la chance à des gens de faire des choses bien pour la nature et la biodiversité, en passant en général voilà, un week-end, un samedi après-midi, bon enfant, on a un petit groupe d'une vingtaine, ça se passe bien, on est au soleil, en général on essaye de faire ça de manière relativement sympathique et conviviale. Donc voilà, j'invite tous les gens qui sont prêts à passer une petite demi-journée de nature et d'action pour justement faire un petit peu avancer le schmilblick à venir nous rejoindre.
Ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir justement, comme on disait aussi, sa région, son département, avec la faune, la flore qu'il y a aussi autour de nous.
Oui, bien entendu. Donc la Frapna, donc comme d'autres associations, donc je peux citer aussi Arthropologia, la Ligue de protection des oiseaux, assez régulièrement, on organise des événements, des conférences, des sorties nature qui vont être à destination du grand public pour justement de donner un petit peu envie aux gens d'aller observer toutes ces espèces, de reprendre un petit peu contact avec cette nature oubliée des esprits. Donc on a quand même beaucoup d'événements qu'on va proposer. Donc en ce moment, la Frapna, on fait ce qu'on appelle les apéros nature. Donc les apéros nature, c'est quoi? On se regroupe, en général un petit groupe de 10-15 personnes sur un sujet. Ça va être par exemple l'utilisation des plantes médicinales il n'y a pas longtemps. Ça va être par exemple les contes sur la nature et l'environnement. Donc voilà, plein de sujets où on invite tous les gens qui le souhaitent à venir se joindre à nous et puis à discuter, à échanger autour d'un petit verre tranquillement pour recréer un petit peu de convivialité sur la thématique de la nature et de l'environnement.
Alors les auditeurs qui seraient intéressés par le fait de participer à un de ces projets ou même de rejoindre l'association, ils peuvent aller voir le site internet, j'imagine.
Oui, effectivement, on a un site internet qui est relativement complet, où on y accède au départ sur la façade régionale. Donc si après on veut s'investir dans un département, il y a juste à cliquer sur le petit département. Donc voilà, et après vous allez voir toutes les démarches pour justement adhérer, nous rencontrer, et par la suite, on l'espère, mener des projets ensemble.
Ok, bah écoute, Julien, je te remercie beaucoup d'être venu présenter la FRAPNA. Et puis, bah, bonne continuation et j'espère de beaux projets à venir.
Oui, et ben merci à Maury et merci à Radio Brume de nous avoir laissé nous exprimer pendant ce petit instant sympathique.